ce matin, Sarah Pitkowski avec Marie Zéban GP, avec Jacques Monclar. Et nous allons débattre des paris sportifs tout de suite en compagnie de Jean-François Villotte, qui est le président de l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qui est en studio ce matin avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de passer nous voir. Nous, on parle paris tous les week-ends, puisqu'on parie dans les grandes gueules, aussi bien sur le foot que sur le rugby, que sur le tennis. Et ce sont en l'occurrence des paris en ligne, puisque les cotes viennent de là. Donc on est ravis de vous avoir ce matin pour parler de ce dossier. D'autant, Serge, qu'on en a beaucoup parlé, nous, après l'affaire des paris dans le handball l'année dernière. Hein. Ça a été un sujet récurrent de notre année.
Et ça l'est, oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un... Bonjour, Président Villotte.
Bonjour.
C'est un des piliers du sport professionnel. Et j'en veux pour preuve le rapport que vous avez publié sur le développement des paris, avec quelques chiffres intéressants. Intéressant pour replacer le décor, c'est que les paris en sportif, on le vend en poupe, ça progresse, et vous le dites vous-même, c'est en train de s'installer dans la culture sportive française. Alors, des choses plus étonnantes, c'est que les paris hippiques et le poker baissent, notamment beaucoup plus le poker que le pari hippique, qui a du mal à s'installer. Et lorsque, et je vous interroge là-dessus, ce que je trouve étonnant, c'est quand on vous écoute, on pourrait dire, tiens, il va se réjouir, le président de l'ARJEL, de la baisse du poker, parce que c'est un truc un peu sulfureux, je sais pas, d'a priori un peu négatif. Mais non, au contraire, vous dites que c'est pas une bonne chose que les paris sur le poker diminuent, et vous allez nous expliquer pourquoi.
Oui, parce qu'il faut, je crois, toujours prendre conscience que sur Internet, il y a une concurrence entre les opérateurs légaux et les opérateurs illégaux. Internet, c'est par définition un marché qui est ouvert. Et donc, si le poker diminue, et d'ailleurs, c'est le fait de tous les marchés de poker régulés en Europe, significativement, ça peut avoir deux raisons. Soit les gens arrêtent de jouer. Alors là, après tout, le régulateur n'a rien à dire sur cette question.
Mais si c'est ce que j'attendais.
Mais si les joueurs retrouvent le chemin d'opérateurs illégaux, et c'est probablement ce qui se passe, alors il faut réfléchir à l'attractivité de l'offre légale. Ce sont plutôt les gros joueurs, et les gros joueurs au poker, 1% des joueurs, ça représente 60% des mises. Ce sont plutôt les gros joueurs qui quittent les tables françaises, probablement pour retrouver des tables illégales. Et ça, c'est un problème de régulation, parce que là, les risques sont maximum.
Un gros joueur, c'est un joueur qui joue combien en ligne? Là, on prend le cas du poker, mais ça peut être valable pour les sports traditionnels également.
Alors, c'est plusieurs milliers d'euros par mois, un gros joueur de poker. Et donc, c'est cette cohorte de gros joueurs auxquels il faut faire attention, d'abord pour qu'ils ne passent pas d'un jeu problématique vers un jeu pathologique, et puis il faut toujours s'assurer de la sincérité et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, la diminution du poker, 20% ces dernières semaines, le cash game en France, c'est encore plus en Italie, c'est encore plus en Espagne. C'est une préoccupation, et donc il faut veiller à l'attractivité des tables légales. Et donc nous avons fait un certain nombre de propositions, notamment d'ouverture des liquidités internationales, parce que c'est un jeu de répartition, et donc l'importance des liquidités est fondamentale pour maintenir les gros joueurs aux tables légales.
On a du mal à imaginer l'ARJEL aller jusque-là finalement dans la régulation, c'est-à-dire des propositions pour le développement du poker en ligne. Revenons au pari sportif, vous développez un nouveau logiciel de contrôle qui est plus répressif, Président ?
Il vise à détecter, donc il n'est pas dans la répression, mais je crois qu'il faut absolument prévenir l'effet de manipulation des compétitions sportives en lien avec les paris sportifs. Et donc il faut mettre en place des dispositifs qui permettent d'analyser le marché et de détecter des anomalies. Pour ça, il faut quatre conditions. La première, c'est qu'il y ait une offre qui soit une offre légale et qui capte la demande. Bien, c'est le cas aujourd'hui pour les paris sportifs en France. Vous l'avez rappelé, ils progressent 17% au troisième trimestre 2013 en comparaison au troisième trimestre 2012. Ça veut dire que les parieurs jouent de plus en plus auprès d'opérateurs légaux. Donc ce sont des offres transparentes. Deuxième condition, il faut avoir un accès autonome aux informations échangées entre les parieurs et les opérateurs. Il ne faut pas s'en remettre aux opérateurs. Et donc nous captons, nous enregistrons l'ensemble des échanges entre les clients des opérateurs agréants.fr de paris sportifs en France. Troisièmement, il faut être capable d'exploiter ces données. Ce sont des millions de données de jeux tous les jours. Et donc, si on veut les exploiter, il faut une ingénierie d'alerte. Ce sont des critères d'alerte, ce sont des moyennes comportementales et des écarts aux moyennes. C'est ça le logiciel dont on parle. C'est tous les jours l'exploitation.
C'est la détection, en fait. C'est l'amélioration de la détection.
Exactement. C'est analyser, et analyser au regard de moyennes comportementales. Et ça, ça se fait championnat par championnat, parce que les comportements des joueurs sont différents d'un championnat à l'autre. Ce ne sont pas les mêmes en France qu'en Italie, donc il faut vraiment une ingénierie locale, championnat par championnat. Et donc, c'est ce logiciel qui aujourd'hui tourne et qui nous permet tous les jours d'avoir ces informations sur ce qui s'est passé en matière de paris. Et puis, il faut une autorité indépendante pour traiter ces alertes, parce qu'il ne faut pas s'en remettre nécessairement aux opérateurs de paris. Non pas qu'ils soient malhonnêtes, mais leurs intérêts ne sont pas nécessairement ceux du régulateur. Et quant au sport, quelquefois, il y a des réflexes qui ne vont pas dans le sens de l'exploitation des alertes.
Est-ce que ce nouveau logiciel garantit qu'on n'aura pas un nouveau Cesson-Montpellier dans les mois ou les années qui viennent? D'ailleurs, pour l'anecdote, cette semaine, Montpellier et Cesson se sont rencontrés. Et Cesson a gagné à Montpellier, ce qui était sportivement assez hallucinant.
Oh, bien sûr. Voilà. Avec plein de joueurs blessés, 34-32, j'ai regardé le match. Ils ont fait un match fantastique.
Voilà. Tu as fait le régulateur, t'as tout bien observé.
Moi, je sais pas régulateur, mais j'ai une question.
Moi aussi, j'ai des questions.
Alors, donc là, ça nous garantit qu'il n'y aura pas de nouveau Montpellier-Cesson ou malgré tout, c'est encore possible?
Non, il y a deux points de faiblesse. D'abord, je rappelle que Cesson-Montpellier, c'était dans le réseau physique du monopole et non pas en ligne.
Oui, c'est-à-dire que c'est des paris qui ont été faits directement dans les points de vente, c'est pas pareil.
Oui,
hein.
Et donc vous pouvez pas avoir le même dispositif d'alerte, par définition, parce que vous connaissez pas l'identité des joueurs au moment où ils enregistrent leur pari, vous n'avez pas la même traçabilité que les opérateurs légaux en .fr, donc ça c'est le premier point de faiblesse, l'unicité des règles de régulation, la question de l'anonymat. Deuxième point de faiblesse, c'est que vous avez des paris qui sont enregistrés sur les événements organisés en France, partout dans le monde. Et donc, s'il existe aujourd'hui en France un système de régulation...
Il n'est pas forcément adopté ailleurs.
Il n'est pas forcément existant ailleurs. Et c'est tout l'enjeu de l'harmonisation des règles. On a une convention au Conseil de l'Europe qui est en train d'être rédigée. On espère qu'on aura cette convention en fin d'année. En tout cas, nous y travaillons.
Et vous disiez aussi tout à l'heure qu'il y avait en plus, dans le domaine du sport, des petits réflexes qui rendaient le contrôle un peu plus compliqué ou un peu moins précis. C'était quoi ces réflexes?
Non, je disais que les comportements des parieurs doivent être analysés compétition par compétition, marché par marché, ils sont différents d'un championnat à l'autre, et donc si vous voulez révéler des anomalies, il faut vraiment avoir une ingénierie d'alerte. Exactement,
ça,
il faut être capable d'analyser le comportement des joueurs.
On parle de profilage, puisqu'on est presque sur du profilage. Le régulateur, c'est qui? C'est un policier, c'est un analyste, c'est un économiste, c'est un informaticien, c'est quelqu'un du milieu du sport, c'est un mentaliste. C'est quoi?
Non, parce que
parce que ça paraît tellement compliqué ce que vous expliquez.
D'abord, le régulateur, c'est une autorité administrative indépendante. Bien. Donc, elle est indépendante du gouvernement, elle est indépendante des autorités sportives, elle est indépendante des opérateurs. Bien. Et elle poursuit des missions que lui a confiées le Parlement. Mm-hmm. Et notamment la sincérité des compétitions sur lesquelles les paris sont proposés. Bien. Deuxièmement, le rôle de ce régulateur, c'est de façon autonome, donc nous accédons directement aux données, d'analyser les données de marché, voir quel est le comportement des parieurs sur le marché français. Et quand il y a des comportements atypiques qui sont détectés, on se pose la question de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que le déroulement de la compétition sportive
pose un
problème?
Donc vous êtes dans du profilage, vous êtes entre sociologie, mathématiques, équations...
Et quand nous ne trouvons pas d'explication à ce qui s'est passé en matière de paris, et ça a été le cas pour un certain nombre de matchs, par exemple de Ligue 2, des championnats de foot français. Quand on ne sait pas interpréter, quand on ne trouve pas d'explication rationnelle, alors on passe la main aux autorités judiciaires, parce qu'ils sont dotés de pouvoirs d'investigation que l'autorité de police administrative que je préside n'a pas.
Mais c'est souvent justement ça, le signal pour vous qu'il y aurait peut-être une anomalie, c'est souvent quand il est impossible d'interpréter ce qui s'est passé sur
un... C'est très exactement ça. Je vais prendre un des premiers cas d'alerte que nous avions eu sur le marché du football, c'est le match de Tours-Grenoble. Bien. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé sur ce match? C'était il y a trois saisons maintenant en Ligue 2. Vous avez un montant de paris anormalement élevé pour un match de fin de saison de Ligue 2. Vous avez une répartition des paris qui est totalement atypique. Tous les paris importants d'un certain montant se portent sur la victoire de Grenoble qui était bien moins classée et qui jouait à l'extérieur que Tours. Le montant unitaire des paris est anormalement élevé et il y a une concentration des paris, on les repère avec la localisation des adresses IP, qui est atypique. C'est-à-dire, pour comment expliquer que les parieurs sur la victoire de Grenoble, du match Tours-Grenoble, se trouvent tous dans le sud-est de la France et en Corse? Bien. Alors, quand vous avez ces critères, ces alertes, c'est ça l'ingénierie d'alerte. Oui. Maintenant, on l'a tous les jours, c'est la nouveauté de ce logiciel. Vous ne trouvez pas d'explication normale? Que les gens parient sur la victoire de Grenoble. Pourquoi pas ? Il y avait une asymétrie d'enjeu. Mais pourquoi dans un lieu particulier ? Pourquoi à ce montant, à ce niveau, etc. Donc on a passé la main aux autorités judiciaires. Dans le cas d'espèce, on nous a expliqué qu'il ne s'était rien passé d'anormal. Donc nous considérons qu'il y a des phénomènes surnaturels en matière de paris qui sont inexplicables.
Bien sûr, d'accord.
Alors, c'est clair. C'est une question clair. De Jacques, une question de Sarah.
Oui,
Jacques.
Non, moi, au niveau des paris, c'est très bien d'avoir comme ça un traçage et tout. Moi, je crois que ce qui est le grand danger, ce sont les paris partiels. Les paris à la mi-temps, les paris pour savoir qui va gagner le premier point du deuxième set en tennis, qui va être le meilleur marqueur de tel match, ou même les écarts. Je pense que c'est ça. Parier sur un résultat sec, victoire, défaite, voire match nul en football ou en rugby ou en hand. Mais les paris partiels, je trouve ça malsain, moi.
Alors, juste pour, avant que vous répondiez, petite anecdote, Jacques. En Angleterre, il y a certains sites qui te permettent de parier sur l'équipe au foot qui aura la première touche du match.
Voilà, non, mais c'est n'importe quoi.
Il s'avère qu'un capitaine d'équipe de première ligue s'arrangeait toujours pour avoir le coup d'envoi et envoyer la balle en touche. Donc, facile. Évidemment, tu as gagné le tirage au sort, le toss.
C'est malsain.
Bah, voilà, donc, c'est une anecdote qui va dans ton sens.
Alors, je vous rejoins. Il y a des paris qui sont plus dangereux que d'autres. Et qui vont, par les conséquences de manipulation qu'ils peuvent connaître, porter un dommage d'image au sport qui ne vaut pas la peine d'être couru. Bien, ce risque ne doit pas être couru. C'est la raison pour laquelle, en France, nous avons une liste des événements sur lesquels nous pouvons parier, des éléments de score des phases de jeu, qui est beaucoup plus limitée que sur d'autres marchés étrangers. Bien, et cette liste est tenue par le régulateur. Donc, nous interdisons de parier sur des compétitions qui n'ont pas d'enjeux ou dont les enjeux sportifs sont asymétriques. Nous interdisons de parier sur des faits de jeu négatifs. Vous évoquiez les fautes. Il y a aujourd'hui
des manipulations. Premier carton rouge, le mec il arrive, il découpe l'adversaire.
Voilà. Donc nous l'interdisons, mais il y a des affaires de manipulation des cartons en Grande-Bretagne parce que c'est autorisé. Bien.
D'accord.
Et donc nous interdisons le pari handicap. Il est interdit en ligne, il ne l'est pas nécessairement dans le réseau physique. Bon, il y a peut-être une question d'harmonisation des règles de la régulation. Tout ça, c'est pour prévenir le risque, éviter qu'on autorise des paris qui sont plus dangereux pour l'éthique et la sincérité des compétitions sportives que d'autres. Par contre, c'est la problématique de l'Internet. C'est un marché ouvert, donc attention, dégradons pour de bonnes raisons les raisons éthiques. Ne le faisons pas trop au détriment de l'attractivité de l'offre légale, parce qu'alors les joueurs vont retrouver le chemin des opérateurs illégaux. C'est une régulation qui est compliquée parce qu'on recherche toujours un point d'équilibre. C'est plus facile d'interdire ou d'avoir des monopoles, sauf que sur Internet, ça ne marche pas. Donc on recherche un point d'équilibre.
Il faut être attrayant, mais pas malhonnête, quoi.
Attractif, mais pas au détriment de l'éthique.
Voilà. Sarah.
Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que donc ces nouveaux outils pour profiler ou poursuivre les parieurs, est-ce que finalement, quand vous allez mettre ça en place, il n'y a pas de l'autre côté des gens qui vont essayer de passer au travers ces outils? C'est un peu ce qu'on pourrait avoir comme combat avec la lutte antidopage, c'est-à-dire que plus on essaie de mettre des règles, plus on essaie de réguler, et plus vous en avez toujours qui cherchent à détourner ces règles. Est-ce que ça peut être un combat sans fin? C'est-à-dire plus vous allez mettre des outils de contrôle, et plus il y en a qui vont essayer de passer au travers.
C'est comme dans la lutte antidopage. Hein.
Voilà, vous avez raison. trois éléments de réflexion. Évidemment, sur les marchés régulés comme en France, l'analyse du marché fait qu'on va détecter des choses qu'on ne peut pas détecter sur d'autres marchés, quelquefois peu ou mal régulés. Bien. Ouais. Et donc, évidemment, les parieurs qui veulent manipuler les compétitions sportives en lien avec des paris vont aller enregistrer leurs paris
à l'étranger
sur des sites. Bon, donc, deuxième objectif, il est fondamental, comme en matière de dopage à la fin des années 90, il faut harmoniser les règles. Bien. Oui. Moi, je suis vice-président du comité de rédaction de la Convention du Conseil de l'Europe. C'est ça son objet. C'est une convention contre la manipulation des compétitions sportives. Faire en sorte que les différents États qui vont ratifier aient les mêmes règles et tendent vers les mêmes standards de régulation. Troisième élément, les points de ressemblance avec le dopage sont tout à fait judicieux. Pourquoi ? D'abord parce qu'il s'agit de porter atteinte à la sincérité du sport. Deuxièmement, les acteurs qui doivent se mobiliser sont les mêmes, les autorités publiques, le mouvement sportif. Troisièmement, les méthodes convergent de plus en plus. Il faut des ingénieries d'alerte. Oui. En matière de dopage, on ne se contentera pas à l'avenir simplement des méthodes analytiques. Donc on cible, on recherche, on interface le disciplinaire sportif et le pénal. Et donc, in fine, on pourra se poser la question un jour de la création éventuelle d'une autorité d'intégrité du sport qui permette de regrouper les compétences dopage, les compétences lutte contre la corruption et la manipulation dans le sport, et peut-être également la question de la sincérité et de la transparence financière et de la régulation d'un certain nombre d'acteurs économiques.
Voilà une proposition intéressante une nouvelle fois. Alain veut vous poser une question, Jean-François Villotte. On va l'accueillir dans quelques instants, juste après une courte pause. Et puis, bah, puisque vous êtes là, on va parier avant midi et on va parier sur le rugby et la Coupe d'Europe dans quelques instants dans la Grande Gueule du Sport.
RMC, les Grandes Gueules du Sport, Gilbert Brébois, Serge Simon.
Avec Marie-Zéban GP, Sarah Pitkowski, Jacques Monclar, avec les paris donc dans quelques instants. Mais Alain veut poser une question à Jean-François Villotte qui est avec nous, le président de l'Argel. Bonjour Alain.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Alain de Lyon. J'avais une question, puisque vous avez commencé sur le poker et pourquoi les joueurs de poker partaient en fait à l'étranger. Moi, je veux rester dans le domaine des paris sportifs, où il peut avoir exactement la même chose. Auparavant, je jouais sur les .com quand c'était pseudo-autorisé ou pas, je ne sais pas. Puis, on est passé sur les .fr, puisque je me suis dit, on passe sur les .fr, ça va être régulé et tout. Et en fait, je m'aperçois que c'est les mêmes opérateurs qu'il y a derrière. On a des codes plus faibles, et en plus, on a les mêmes soucis avec ces opérateurs-là. Des problèmes de limitation, des problèmes d'annulation de paris après l'épreuve. Mmh. Et je voudrais savoir ce que fait l'Argel pour nous défendre.
Alors, Jean-François Villotte.
Et pour pas qu'on retourne sur les points, .com, on va dire.
Bien. D'abord, la question des cotes. Évidemment, quand vous avez un opérateur illégal, il peut assurer un taux de retour aux joueurs supérieur et donc des cotes plus avantageuses à partir du moment où il ne supporte aucun coût de régulation et où il n'est pas fiscalisé. Bien. C'est la problématique du travail au noir, en général. Bien. Je ne pense pas qu'il soit normal qu'une activité économique de la sorte ne soit pas fiscalisée. Après, il peut y avoir un débat sur le niveau de fiscalité, le taux de pression et sur l'assiette. L'Argel s'est d'ailleurs prononcé pour un changement d'assiette, pour changer d'assiette en passant des mises au PBJ. Je ne rentre pas dans le détail, mais il nous semble que ça redonnerait des marges opérationnelles aux opérateurs. Bien.
PBJ, donc, c'est produit
brut. C'est le produit brut de jeu, c'est-à-dire les mises moins les gains, ce qui reste comme marge aux opérateurs. Bien. Deuxièmement, nous avons des procédures de contrôle des opérateurs qui visent d'une part à s'assurer de la sincérité de leur logiciel de jeu, à la sécurité. Faire en sorte que les données de jeu des clients ne soient pas accessibles de l'extérieur. Et on a fait passer un certain nombre d'opérateurs des tests de vulnérabilité qui démontraient que manifestement un certain nombre d'opérateurs installés en Europe n'avaient pas des systèmes suffisamment sécurisés pour garantir une absence de vulnérabilité des données des joueurs. C'est par exemple l'accès à vos références bancaires et à votre carte bancaire. Bien. Donc de ce point de vue, les opérateurs agréés et les opérateurs légaux sont beaucoup plus sûrs que les opérateurs illégaux. Par ailleurs, nous passons notre temps à surveiller l'activité des opérateurs et lorsqu'il y a des manquements à leurs obligations légales et réglementaires, il y a une procédure de sanction. L'Argel peut sanctionner. Nous sommes allés jusqu'à retirer l'agrément d'un opérateur. C'est une commission des sanctions indépendante du collège. Il y a eu des sanctions financières. Il y a eu des avertissements. Donc, il y a un contrôle d'exercer sur les opérateurs, éventuellement des sanctions. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Et vous évoquez, par exemple, la question de l'annulation du retrait de l'offre après que la compétition se soit déroulée. Nous avons également contrôlé la question de l'exécution des paris sur la cote telle qu'elle avait été contractualisée. Donc nous avons des procédures en cours. Donc je ne dis pas que la situation est parfaite. C'est même la raison pour laquelle nos contrôleurs passent leur temps à regarder la nature de l'offre des opérateurs agréés. Je pense qu'elle est beaucoup plus sécurisée que l'offre des opérateurs illégaux. Et il y a tous les jours, sur ce marché de l'Internet, des incidents de marché qui tiennent à l'activité d'opérateurs illégaux et des incidents graves, les liquidités qui disparaissent, les avoirs qui disparaissent, les données bancaires qui sont accessibles à des tiers.
Voilà, donc évidemment, choisissez les opérateurs légaux et les choses devraient plutôt bien se passer. En partie grâce à l'Argel. Alors, on parie nous aussi. Bougez pas, comme ça, on va voir si on fait les choses bien.
On est écouté par des stars. Hein. Alain Delion.
Alain Delion, bah oui, il est là. Merci
Alain. Il a commencé par une blague.
Merci Alain.
Il faut faire un truc avec Jacques. Il faut le changer d'émission. Il faut un contrôle de la régulation des blagues. Hein, aussi, si
l'autorité de régulation des blagues de Jacques Monclar.
Absolument.